Depuis son lancement en 2015, Ethereum a révolutionné l'écosystème crypto en offrant un environnement robuste et fiable, que ce soit pour l'exécution de contrats intelligents ou la mise au point d'applications décentralisées. Aujourd'hui, une nouvelle ère s'annonce pour cette plateforme emblématique et vous allez le voir, tout ça pourrait bien changer beaucoup de choses. Et oui, vous n'êtes peut-être pas au courant, mais les développeurs d'Ethereum ont enfin fixé une date pour le déploiement de la prochaine grosse mise à jour du protocole. Alors restez avec moi car dans cette vidéo on va se plonger dans les rouages de cette nouvelle évolution de la blockchain de Vitalik Buterin, découvrir ses implications pour les utilisateurs d'Ethereum et explorer comment elle pourrait remodeler l'avenir de la deuxième crypto-monnaie du marché. Le 8 février dernier, Tim Bayko, un développeur de la fondation Ethereum, a annoncé sur Twitter que les blobs allaient arriver sur le mainnet au slot 8 626 176 de la blockchain Ethereum. Sachant qu'un slot dure environ 12 secondes, après un calcul rapide, la mise à jour devrait donc avoir lieu le 13 mars prochain aux alentours de 15h. Mais comment ça, les blobs arrivent? Évidemment, on ne parle pas de créatures marines douteuses ici, mais bien d'un changement drastique dans la façon de traiter certaines données sur Ethereum, mais pas d'inquiétude, on y reviendra et vous allez voir, c'est plutôt intéressant. Il y a environ un an, soit quelques mois après le merge, c'est-à-dire son passage en Proof of Stake, Ethereum déployait la mise à jour Shanghai qui offrait entre autres la possibilité de retirer les ETH mises en staking par les utilisateurs du réseau. C'était le dernier hard fork en date de la blockchain de Vitalik Buterin et le prochain s'annonce pour très bientôt. Et justement, il s'agit de Denkun, la mise à niveau qui va introduire les fameux blobs et le proto Denksharding. Si on veut résumer, le proto Denksharding introduit un nouveau format de stockage sur Ethereum, les blobs. Évidemment, ce nom ne sort pas de nulle part, c'est le diminutif pour Binary Large Objects. Si vous n'avez rien compris, laissez-moi vous expliquer. Revenons d'abord aux fondamentaux. Vous n'êtes pas sans savoir que bon nombre de roll-up ont vu le jour sur Ethereum et plusieurs technologies et projets se disputent actuellement la place de leader dans le domaine. Il existe toute une batterie de projets, mais ceux qui nous intéressent ici sont les roll-up qu'on peut qualifier de classiques. Parmi eux, on a d'un côté les optimistic roll-ups à l'image d'Optimism, Arbitrum ou encore Boba Network par exemple, et de l'autre les ZK roll-ups tels que ZKSync, Starknet ou encore Polygon. L'idée principale derrière la technologie des roll-ups, c'est de pouvoir traiter les transactions en dehors de la chaîne principale Ethereum pour ensuite les envelopper dans une sorte de gros paquet que l'on envoie ensuite sur la chaîne principale, d'où le nom de roll-up. Ces paquets sont ensuite validés sur Ethereum. Dans l'idée, on crée une empreinte de l'ensemble des transactions qui sont présentes dans le roll-up et cette empreinte est ensuite vérifiée sur la chaîne principale. Et là, vous vous dites sûrement que c'est bizarre. Si c'est seulement une empreinte, comment on s'assure que le contenu du roll-up est valide ? Oui, parce qu'en pratique, le processus de vérification qui a lieu sur la chaîne principale est mené par un smart contract. Et ce smart contract n'a pas vraiment accès au contenu des roll-ups, il a juste accès à l'empreinte. Pour que tout ça fonctionne, chaque projet se démène pour trouver la meilleure solution et la meilleure approche. Évidemment, tout ça est un peu compliqué techniquement et je ne vais pas rentrer dans le détail ici, mais retenez simplement que les roll-ups sont une manière de réduire drastiquement les frais sur Ethereum en plus d'augmenter la capacité de traitement de la blockchain et de diminuer fortement le temps d'attente pour la validation des transactions. Et Vitalik Buterin lui-même encourage très fortement le développement de ces nouvelles technologies, pour lui il n'existe pas de futur à Ethereum sans les roll-ups. En tout cas, si vous voulez en savoir plus sur les roll-ups en particulier, on a un excellent article sur le journal du coin qui vous permettra de mieux appréhender cette nouvelle narrative et pourquoi pas de vous positionner dessus. Je vous mets bien sûr le lien en description de cette vidéo. Revenons-en à nos moutons et particulièrement à cette fameuse mise à niveau Denkun. Dedans, on y retrouve l'introduction de 9 propositions d'amélioration d'Ethereum différentes, mais surtout cette mise à jour va introduire l'EIP 4844 sur le protocole, c'est le proto Denksharding dont je vous parlais tout à l'heure. Pour la petite anecdote, ce concept a été nommé en hommage à 2 chercheurs d'Ethereum, Denkradfaced et Proto Lambda, qui sont justement à l'initiative de cette EIP 4844. Le nom fait aussi référence à l'étape qui est censée se trouver juste avant un Denksharding complet. En grec, proto fait référence au commencement, ce qui vient avant quelque chose, ça ne s'invente pas. Cette EIP est l'une des composantes phares de Z-Surge, l'étape de la roadmap d'Ethereum liée à l'évolutivité de la blockchain de Vitalik Buterin par les roll-ups et par la fragmentation des données. Vous voyez, quand je vous disais que Vitalik poussait fort pour les roll-ups, je ne mentais pas. Leur intégration a carrément été pensée dans la roadmap et fait vraiment partie du futur d'Ethereum. Le but final de Z-Surge, c'est d'augmenter de manière significative le nombre de transactions par seconde que la chaîne peut gérer. Dans l'idée, plus de 100 000, le tout en s'appuyant justement sur les roll-ups. Bon, vous vous en doutez, cette nouvelle mise à jour ne sort pas de nulle part, et comme chaque grosse modification du protocole, les réseaux de testnet d'Ethereum ont d'ores et déjà été éprouvés. Ainsi, la mise à jour a été déployée avec succès sur les testnets GoEarly et Sepolia. Début février, la mise à niveau a été implémentée sur Holeski, le dernier réseau de test. Le lancement s'est bien passé, et dans la foulée, les développeurs d'Ethereum ont convenu d'une date pour le lancement sur le mainnet. Et c'est là qu'on rentre dans le vif du sujet, parce qu'en réalité, cette nouvelle EIP va changer beaucoup de choses pour les L2. Comme je vous le disais, Dan Kuhn introduit une technologie innovante appelée blobs. Ces blobs agissent comme des petits compartiments de données qui viennent s'accrocher au bloc, réduisant ainsi la quantité de stockage et de traitement nécessaire pour les transactions hors chaîne, ce qui économise de l'argent et rend le réseau plus efficace. En fait, pour bien comprendre l'intérêt de ces nouveaux objets, il faut comprendre que l'une des principales limitations des roll-ups, c'est la publication on-chain des données de la vérification des preuves. Vous vous en souvenez, les fameuses empreintes dont je vous parlais. Lorsque vous payez des frais sur les protocoles de seconde couche d'Ethereum, que ce soit sur les ZK Rollups ou les Optimistic Rollups, une partie de ces frais provient de l'enregistrement de l'empreinte sur la chaîne principale, et même plus particulièrement de l'endroit où l'on enregistre ces données. Usuellement, ces données sont mises dans une partie spécifique des transactions qu'on appelle call data, et pour la faire courte, enregistrer quelque chose à cet endroit, ça a un coût. Et ce coût dépend directement de la taille et de la complexité des données que l'on va justement mettre dans le call data. Et ça fait partie des deux coûts variables qui sont associés au layer 2, l'autre étant les frais de gaz de la chaîne principale. C'est là que les fameux blobs entrent en jeu, puisque l'idée est de stocker les empreintes à un endroit différent et par conséquent moins cher. Pour vous faire une idée, les frais de gaz liés à l'utilisation des call data représentent aujourd'hui environ 20% du gaz total utilisé sur la blockchain principale. Bref, les blobs ont pour but de stocker temporairement les données nécessaires uniquement pour vérifier les transactions à court terme et peuvent être supprimés après usage pour éviter de surcharger le réseau. De plus, la sécurité des données est assurée par des engagements cryptographiques qui détectent toute altération. En clair, les blobs sont un nouvel espace de stockage de données spécialement conçu pour accueillir des données de grande taille qui sont directement liées au layer 2. En plus de pouvoir stocker plus de données, on se retrouve avec un système qui nous permet de réduire considérablement les frais puisque le stockage est bien moins coûteux que dans les call data. Ainsi, on devrait observer une baisse significative du coût de transaction sur les layer 2. Et quand je dis significatif, c'est peu dire. Certains tapent sur une diminution de 90% des frais liés à ce genre de transaction. En plus, toute cette nouvelle gestion des frais de transaction rentre directement en symbiose avec les principes introduits par la célèbre EIP 1559. Pour rappel, cette mise à jour déployée en 2021 introduit une nouvelle gestion en temps réel des frais sur la blockchain, ainsi qu'un système de destruction d'une partie des ETH utilisés dans les frais de transaction, ce qui fait mathématiquement diminuer la supply d'Ethereum au fur et à mesure du temps. D'ailleurs, on peut noter que ce système nous offre un marché des frais pour les blobs décorrélé des frais sur la chaîne principale. Ce que ça veut dire, c'est que si un jour les frais sur Ethereum grimpent en flèche à cause d'une activité anormale importante sur le réseau, les frais des blobs et par extension ceux des couches secondaires ne devraient pas être impactés. Ça, c'est pour le court terme. À long terme, le Dank Sharding devrait permettre de réduire considérablement la taille de la blockchain et donc de la rendre bien plus facile à stocker. Pour vous donner des ordres de grandeur, je vais vous énoncer quelques chiffres. Un blob sera composé de 4096 éléments pesant chacun 32 octets. La limite des blobs par bloc devra atteindre 16, et ça nous donne un total d'environ 2 mégaoctets par bloc pour l'ensemble des blobs s'y trouvant. Ces blobs ont également une durée de vie de 2 semaines, ce qui veut dire qu'une fois le délai passé, ils sont supprimés. Ceux-ci sont donc disponibles suffisamment longtemps pour que tous les acteurs d'un layer 2 puissent les récupérer, mais supprimés suffisamment rapidement pour que l'utilisation du disque reste raisonnable. Et c'est aussi pour ça que c'est bien moins cher que les call data, parce que ces derniers sont stockés ad vitam aeternam dans la chaîne principale. Il faut bien comprendre ici que la notion de durée de vie des blobs est vraiment un game changer. Si on veut être précis, les blobs ne sont pas vraiment intégrés dans les blocs, mais plutôt attachés à eux, un peu comme on mettrait une étiquette sur une valise. C'est exactement pour ça qu'ils ne sont pas stockés indéfiniment sur la blockchain, et c'est conçu comme ça parce qu'en réalité, les layer 2 n'ont pas besoin de cette persistance dans les données. En pratique, les rollups doivent prouver la validité de leur transaction à un moment précis. Une fois cette validation obtenue sur la chaîne principale, conserver tous les détails des transactions n'est plus nécessaire. La seule confirmation de la validité de la transaction est alors suffisante. Cependant, il est faux de dire que les blobs sont totalement supprimés. En réalité, une chose persiste, c'est l'empreinte KSG, pour Kate Zawerucha Goldberg. Évidemment, comprendre techniquement comment tout ça fonctionne nécessite un gros background en algèbre, en théorie des nombres et en cryptographie. Mais ce que vous pouvez retenir, c'est que cette empreinte est là pour dire que le blob contient des données valides, c'est un peu comme un certificat. Dès que le blob est supprimé, on garde uniquement le certificat et ça suffit pour prouver sa validité pour l'éternité. Et évidemment, c'est dérisoire en termes de capacité de stockage. Avec l'introduction de cette mise à jour Dan Kuhn, le marché pourrait être impacté de plusieurs manières. En catapultant les capacités du réseau Ethereum et en réduisant drastiquement les coûts de transaction sur ses Layer 2, cette nouvelle mise à niveau propulse littéralement Ethereum à un nouveau niveau de scalabilité. Avec ça, les Ethereum killers comme Solana par exemple ont probablement du souci à se faire, étant donné que leurs principaux arguments deviennent caducs. Oui, parce qu'à l'origine, une grande partie de leur proposition de valeur réside dans leur rapidité et leurs faibles frais. Aujourd'hui, Ethereum conserve son hégémonie grâce à l'avance et au développement de son écosystème qui dépasse largement les projets les plus jeunes. Et c'est normal, le protocole a bientôt 10 ans. Ça fait plusieurs années que cette place est remise en question et que la blockchain de Vitalik Buterin se retrouve accusée d'être trop lente et trop coûteuse par rapport au reste du marché. Et en ce sens, ce n'est pas faux. Quand vous voyez qu'une transaction sur Solana coûte quelques centimes et passe en quelques secondes, on peut se demander l'intérêt qu'il y a de rester sur Ethereum. Mais voilà, les choses changent et on commence de plus en plus à avoir une vision de ce à quoi pourrait ressembler Ethereum dans le futur. Si les développeurs réussissent leur pari et arrivent finalement à compléter la mise à l'échelle du réseau, on peut légitimement être inquiet pour le devenir de tous ceux qui sont venus marcher sur les plates-bandes du roi des altcoins. À voir comment tout ça se déroule, et évidemment, personne ne peut prédire le futur. En tout cas, cette mise à jour est vraiment prometteuse et risque de changer pas mal de choses dans l'écosystème crypto. On arrive à la fin de cette vidéo. Elle nous a demandé un énorme travail de recherche, donc n'hésitez pas à la liker, la commenter et la partager pour nous donner de la force et nous encourager à en refaire d'autres. Merci à Thomas qui m'a aidé dans la réalisation, c'était Romain du Journal du Coin, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, bye!